Dans notre série Ayez confiance, Jésus-Christ est supérieur à tout. Vous vous souvenez que nous avons, il y a la première fois, nous avons parlé de Jésus-Christ supérieur aux anges. L'avant-dernière fois, nous avons parlé de Jésus-Christ qui a vaincu la mort et qui nous a donc délivré de cet esclavage que la mort, dans laquelle la mort nous enfermait. Et puis là, en abordant dans le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, se pose un autre questionnement, c'est le rapport de Jésus-Christ par rapport au système des sacrificateurs et entre autres, par rapport au souverain sacrificateur et au rôle très particulier que ce dernier avait par rapport à Dieu et par rapport au peuple. Et là encore, les Saintes Écritures vont nous enseigner que Jésus-Christ est supérieur au souverain sacrificateur de la tribu d'Aaron, hein, puisque vous savez que les souverains sacrificateurs étaient issus de la famille d'Aaron, donc le frère de Moïse, et on les appelle communément encore aujourd'hui les Cohen. À chaque fois que vous avez un ami hébreu qui s'appelle Cohen, il est très certainement lié à la branche justement des souverains sacrificateurs, donc la famille d'Aaron. Dans la traduction parole vivante, que vous connaissez, je suppose, voici comment le texte est rendu. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre, si éminent, qui a traversé les cieux pour pénétrer jusque dans la présence même de Dieu, demeurons fermement attachés à la foi que nous professons et confessons-la fidèlement. En effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves à tous égards et est soumis absolument aux mêmes tentations que nous, et pourtant, il est resté sans péché. Approchons-nous donc de son trône avec une grande assurance. Nous y trouverons compassion et grâce, et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. L'Épître aux Hébreux, comme l'ensemble des Saintes Écritures, nous présente Jésus-Christ comme étant supérieur aux prêtres, et donc ayant un sacerdoce supérieur au leur. Alors, vous vous souvenez que nos amis hébreux, à l'époque où l'Épître a été écrite, n'avait qu'une crainte, c'était de se dire, mais après tout, depuis des siècles, la relation avec Dieu s'est passée par les Lévites, par les prêtres, par le souverain sacrificateur, avec la fête du Yom Kippour une fois par an. Et puis là, on nous dit que Jésus-Christ suffirait complètement et totalement. Alors, vous comprenez un petit peu leur trouble. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va donc démontrer d'une manière systématique la supériorité de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur étant comme l'intermédiaire, le médiateur entre Dieu et le peuple. Alors pour les Juifs, il faut se rappeler que le grand prêtre, donc le souverain sacrificateur, représentait la plus haute autorité du pays. Autorité spirituelle, morale, c'était la plus haute. Et pourquoi ? Parce que lui seul entrait, comme vous le savez, dans le lieu très saint du temple, une fois par an, pour faire l'expiation des péchés de la nation, c'est ce qu'on appelle la fête du Yom Kippour, ce qui est renouvelé encore dans les synagogues aujourd'hui, non plus avec évidemment des sacrifices d'animaux, mais simplement ça a été remplacé par des prières. C'est pour ça que les Juifs aujourd'hui prient toute la journée du Yom Kippour, en remplacement donc de cette fête, et ce depuis la destruction du premier temple, et du deuxième temple évidemment en 70 après Jésus-Christ. Mais les prières ont commencé lorsque le premier temple, celui construit par Salomon, a donc été détruit. En Lévitique chapitre 16, verset 34, il nous est rappelé au sujet du souverain sacrificateur, il fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Comme le grand prêtre de l'époque, Jésus-Christ sert de médiateur entre Dieu et nous. Alors c'est une grande nouveauté dans un certain sens. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en présence permanente de Dieu son Père. Donc le souverain sacrificateur de l'époque, lui, rentrait une fois par an dans le lieu très saint. C'était un homme, comme un être humain, comme vous et moi. Alors que là, il est question du Fils même de Dieu, fait homme, qui sert de médiateur, donc de souverain sacrificateur. C'est pour ça que Paul va dire en 1 Timothée chapitre 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Alors ce qui est intéressant dans la nature d'un médiateur, c'est qu'un médiateur doit représenter équitablement les deux parties en présence. Donc le parti de Dieu, en l'occurrence, pour notre situation, et notre propre parti, c'est-à-dire le parti de l'humanité. Et comme représentant de l'humanité, c'est-à-dire Dieu fait homme, Jésus-Christ intercède pour nous devant Dieu. Mais comme représentant de Dieu, c'est-à-dire Dieu, parfaitement homme, parfaitement Dieu, il nous assure du pardon de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il nous assure du pardon de Dieu? Ben c'est parce que étant Dieu fait homme et étant resté sans péché, alors l'Épître aux Romains chapitre 1 nous dit que sa résurrection d'entre les morts est la démonstration de la perfection du sacrifice qu'il a offert. Si le Christ n'avait pas offert un sacrifice parfait, sous-entendu, il n'aurait pas été lui-même parfait, ce qui est impensable, mais s'il y avait eu une once d'imperfection, une absence de sainteté absolue, eh bien, il ne serait pas ressuscité d'entre les morts. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Romains, il est dit que la résurrection de Christ manifeste avec puissance sa divinité. Alors, il représente la sainteté de Dieu, le parti de Dieu. Il a parfaitement accompli la volonté de son Père pendant son incarnation. Et puis, il est capable de nous représenter parce qu'il a revêtu un corps semblable au nôtre. Il est venu marcher sur cette terre, vivre comme nous. Il a accepté, lui, le Dieu infini, de s'enfermer dans un corps physique, donc avec les limites qui sont les nôtres. Et à ce titre, il connaît parfaitement Dieu parce qu'il est Dieu lui-même. Et il connaît parfaitement les hommes et les femmes que nous sommes parce qu'il est devenu un être humain. Il s'est incarné, sans perdre évidemment sa divinité. Donc contrairement au grand prêtre qui se présentait une seule fois par an devant Dieu, Jésus-Christ est toujours à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Il est toujours disponible à l'écoute de nos prières. C'est en cela, dans sa nature, qu'il est supérieur au grand prêtre, mais aussi dans sa position. Il est assis à la droite de Dieu, dans la majesté divine, et il intercède pour nous. Alors, je ne sais pas comment vous voyez Jésus-Christ le matin, quand vous vous réveillez, à quoi est-ce que vous pouvez bien penser le matin, ou tout au long de la journée, puis le soir en vous couchant, ou si vous vous réveillez la nuit, à quoi vous pensez. Mais nous sommes invités à penser au fait que notre Sauveur bien-aimé est en présence permanente devant Dieu et il intercède pour nous. En Hébreux chapitre 9 verset 24, il est dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme en imitation du véritable », c'est-à-dire que le temple était une imitation du sanctuaire véritable qui se trouve dans le ciel. Lui, le Christ, est rentré non pas dans le temple construit par Salomon, et ensuite reconstruit par Hérode, mais il est rentré dans le ciel même. Et en cela, il est supérieur à n'importe quel souverain sacrificateur, bien entendu, c'est un autre aspect de sa souveraineté, de sa supériorité. Mais il est rentré dans ce tabernacle, ce sanctuaire dans le ciel, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et le maintenant, dans le grec, c'est un présent permanent. Et maintenant, pour toujours, pour l'éternité. C'est extraordinaire. À chaque seconde, je ne sais pas quoi vous pensez, mais moi ce qui me réjouit, c'est de savoir que mon Sauveur est dans le ciel. Et à chaque fois, il est là en présence de son Père, et avec ses mains percées, son côté percé, ses pieds percés, puis il dit « Mais Père, j'ai payé pour les péchés de l'homme. coup, Mariano, c'est payé. Et moi, quand je demande pardon à Dieu parce que je suis convaincu d'avoir péché, eh bien, je sais que là-haut, j'ai mon avocat, mon souverain sacrificateur, mon sauveur qui est là, qui dit, mes pères, j'ai payé. Et alors, c'est formidable parce que même quand on dort, il est là, il nous représente. Nuit et jour, chaque seconde, chaque millième de seconde, il nous représente. C'est fabuleux, c'est une source de joie quand on y pense, avoir un avocat dans le ciel. Le Fils de Dieu lui-même, Dieu le Fils. Et puis, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 34, quand Paul dit, mais que pourrions-nous rajouter à ces certitudes que Dieu nous accorde en Christ, il dit, mais qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera? Il dit, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il dit aux chrétiens romains, mais comprenez où se trouve votre sauveur. Ne tremblez pas, soyez enthousiastes et heureux de savoir que celui qui est mort pour vous intercède pour vous, il est à la droite de Dieu. Alors, je constate qu'il y a un changement dans le temple, parce que habituellement dans la... C'est quoi, c'est là, non? Non, parce que la théologie luthérienne, à la différence de la théologie catholique, amène sur la croix, vous avez le Christ, et jusqu'à maintenant le Christ était sur la croix. Oui, alors là il est là, d'accord. Mais habituellement il est vraiment sur la grande croix. Ça c'est la théologie luthérienne, c'est-à-dire on n'oublie pas que le Christ est mort pour nos péchés. La théologie catholique c'est il est ressuscité, donc on a une croix, mais sans Christ dessus. Et je crois que je vous l'ai dit il y a quelques années maintenant, je suis allé prêcher pour une église évangélique dans un lieu loué par les catholiques, par des lazaristes, et c'est la seule et unique fois où j'ai vu ce type de croix, une croix, avec les trous sur la branche horizontale et les trous en bas sur la branche verticale. Et j'ai trouvé ça extrêmement évocateur, ça fait penser à la mort du Christ, et aussi à sa résurrection, il n'est plus attaché à la croix, il est dans le ciel. Je ne sais pas pour quelle raison ils ont enlevé le Christ là, bon, ils l'ont mis là, ok. Mais ça, bon, c'est la théologie luthérienne. J'ai perdu ma page, attendez. Alors, en Hébreu chapitre 4, verset 14, il est dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, c'est un privilège incroyable. Vous avez, chacun d'entre vous qui êtes né, d'entre nous, pardon, qui sommes nés de nouveau, nous avons un souverain sacrificateur personnel. Il est communautaire, mais en même temps, il est pour chacun d'entre nous. C'est incroyable ce que Dieu est capable de réaliser. Alors, il est en train de leur dire ça à la communauté juifs de l'époque qui s'est tourné vers le Seigneur, il leur dit, mais il n'est pas simplement un souverain sacrificateur pour la communauté, comme le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance était. C'était un homme qui avait ce titre particulier, qui représentait le peuple. Il était pour la communauté. Mais là, il y a cette vérité qui est, mais il est pour toi individuellement et il est pour la communauté simultanément. Et c'est remarquable d'avoir cette double action du Seigneur, et il n'y a que lui qui peut l'accomplir, cette action individuelle et communautaire, parce qu'il est Dieu. Alors il englobe tout, et en même temps, l'individu et la totalité. Il n'y a que Dieu qui sait faire ça. Alors, nous possédons comme eux, nous possédons un grand prêtre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, hein, notre Sauveur. En Romains chapitre 8, verset 1, en Hébreux chapitre 8, verset 1, il est dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Et là, on rejoint cette réalisation divine, le tabernacle de Dieu, qui lui-même a conçu, avec Dieu le Fils, qui est le sacrifice et en même temps le souverain sacrificateur. Et puisque nous avons un tel souverain sacrificateur, Le verset 14 nous dit, du chapitre 4, « Demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Il y a là donc, dans le texte, un appel à la fermeté dans la foi, dans la conviction, dans la relation avec Christ, un appel à la fermeté et à la persévérance. Le mot utilisé exprime le fait de tenir ferme à quelque chose ou à quelqu'un et de lui rester étroitement associé. Hein, le terme grec qui est utilisé quand il dit « demeurons fermes », c'est étant attaché en étant étroitement associé. Et donc le Saint-Esprit, par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, rappelle à chacun d'entre nous cet après-midi, comme il l'a fait dans le passé à ses correspondants directs, d'être fermement attaché dans une communion avec le Seigneur lui-même. Alors pourquoi cet appel ? Ben parce que les croyants avaient besoin de savoir que le sacerdoce de leur Seigneur leur offrait toutes les ressources dont ils avaient besoin. Pourquoi ? Parce que dans l'ancienne alliance, vous comprenez bien que c'était un être semblable à eux, avec une dignité particulière. Il était le souverain sacrificateur, mais c'est un être humain qui rentrait dans le temple, et vous le savez comme moi, il avait des clochettes en bas de sa robe, et puis il y en a même qui disent qu'il était relié par un fil, il y avait un fil qui était attaché à ses pieds, enfin plus qu'un fil. Si jamais il mourait, il fallait le tirer du lieu très saint. Il n'est pas question que quelqu'un pénètre du lieu saint dans le lieu très saint. Donc il était attaché, d'après la tradition juive, et si jamais il mourait, on allait le tirer pour ne pas pénétrer dans le lieu très saint. Mais c'était un être humain qui rentrait. Alors qu'ils avaient besoin de comprendre que là, c'était Dieu le Fils lui-même qui avait pénétré et qui est vivant, et qui a donc toutes les ressources. Et en Hébreux chapitre 4, verset 15... En parole vivante, il est dit « En effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. » Alors évidemment, il disait « Mais si c'est Dieu, comment voulez-vous qu'il partage comme nous nos inquiétudes, nos sentiments, nos émotions, nos craintes, nos complexes, etc. » Et là, il leur dit « Mais il a aussi été homme !» C'est Dieu fait homme, votre souverain sacrificateur. Alors il leur dit, mais il n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves à tous égards. Alors c'est quelque chose d'incompréhensible pour eux à l'époque, ça l'est peut-être aussi parfois pour nous. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous. Et pourtant, il est resté sans péché. L'auteur de l'Épître est en train de dire à ses correspondants que celui qui est leur souverain sacrificateur était passé par où ils étaient passés et avait été tenté comme eux en toutes choses. Bien que contrairement à eux, il n'ait jamais péché, n'ayant jamais mal réagi, à aucune de ses tentations. C'est un peu comme un rocher inébranlable qui peut soutenir l'assaut d'une mer déchaînée. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans la côte du Pays Basque, à Biarritz. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller depuis mon enfance et j'y suis retourné il y a peu de temps. Et c'est étonnant, un rocher est toujours là. Et il était, je vais avoir 70 ans, mais moi j'avais 6 ans, 7 ans quand j'allais là-bas. Et de revoir ce rocher là. Alors que sur la plage de Biarritz, je peux vous dire que quand il y a la tempête, ça tape. Il y a vraiment des rouleaux énormes. Eh bien, il est là. Il bouge pas. Et donc, il y a dans la création que Dieu nous a accordée, il y a des exemples qui nous permettent de comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, face à l'assaut du péché, de la souillure, eh bien, est resté comme ce rocher inébranlable. Seul celui qui peut résister pleinement à la tentation peut connaître toute la portée de sa force. Justement, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Dieu fait homme, a été tenté en toutes choses comme nous, il est donc le seul capable de véritablement comprendre l'épreuve que parfois nous subissons sous les assauts de l'ennemi de nos âmes. Parce que lui est le seul à avoir combattu tout le déchaînement de la puissance satanique. Vous savez que Satan s'est déchaîné à un point sur une personne au moment juste avant la croix, c'est-à-dire dans le jardin de Gethsémané, quand le Seigneur a eu des grumeaux de sang, quand il transpirait dans ce combat titanesque qu'on a du mal à imaginer. Notre Seigneur Jésus-Christ a été opposé directement à tout le déchaînement de la puissance satanique. Et parce qu'il est sorti vainqueur, et fort heureusement, et il était Dieu, eh bien, il peut nous comprendre. Parce que lui, il sait ce que c'est que d'être un être humain. Il sait quelle est la puissance et la perversité de l'ennemi pour nous faire tomber dans le péché. Et il connaît parfaitement ce que nous endurons lorsque nous résistons, voire même lorsque nous coulons, que nous abandonnons le combat, que nous sommes vaincus. Il sait ce que c'est. Lui n'a jamais péché, mais il connaît nos souffrances, nos tourments, nos difficultés, nos faillites parfois, en ce qui nous concerne. Celui donc qui est sans péché a donc une plus grande capacité de compassion à l'égard d'un pécheur que pourrait en avoir un autre pécheur. On a beaucoup de mal, nous, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, quand quelqu'un vient nous confesser des péchés, on se dit ben, oh, fort heureusement, moi j'ai résisté à ça, ou oh là là. Mais on ne se rend pas compte. Tandis que Jésus-Christ, lui, est capable d'une compassion, d'une compréhension, tout en restant dans une sainteté absolue. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à nous tourner vers lui, parce que lui est capable véritablement de nous comprendre, et c'est le seul qui connaît l'expression de nos combats, la tension de la lutte que nous pouvons avoir. Et c'est pour ça qu'il est dit au verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » En parole vivante, il est dit « Approchons-nous donc de ce trône avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance, l'assurance d'être aimé, l'assurance d'être compris, l'assurance de quelqu'un qui ne va pas, tout en gardant la totalité de sa sainteté, qui va être capable de comprendre quelles sont nos luttes et qui va nous tirer vers la sainteté, qui va nous tirer vers le haut. Alors, il dit, approchons-nous donc de son trône avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Nous y trouverons compassion. La compassion, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et donc, de lui offrir un appui, en quelque sorte, une compréhension, une compassion. Et grâce, et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Lorsque nous sommes tentés, lorsque nous sommes au milieu d'une lutte, d'un combat, d'une difficulté qui parfois perdure dans le temps, eh bien là il faut s'approcher toujours davantage de Dieu. Que la tentation ne nous détourne pas du chemin du trône de la grâce et de la compassion. En quelque sorte, c'est la déclaration de Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Donc, recevez mes instructions, c'est-à-dire que le Seigneur va nous entraîner dans cette obéissance à sa parole, et en même temps, il va nous communiquer sa grâce, qui va nous enseigner à renoncer aux convoitises trompeuses, comme il est dit dans l'épître de Tite. La grâce nous enseigne. La grâce, c'est le Christ. Et le Christ nous a sauvés pour nous enseigner à marcher avec lui dans sa sainteté. Les souverains anciens disposaient du droit de grâce selon leur bon plaisir. Ici, au trône de Dieu, en permanence, la grâce est offerte. Et une voie d'accès est ouverte par notre Seigneur Jésus-Christ, au point que le trône saint et glorieux peut être appelé le trône de la grâce. Vous Vous savez, le trône, c'est toujours écrasant de solennité, de sainteté. Et dans l'Ancienne Alliance, on voyait bien que Dieu mettait des intermédiaires, une distance infranchissable. Ne serait-ce que déjà dans le temple, le lieu saint, le lieu très saint. Mais il n'y avait que le parvis pour les individus comme vous et moi. Le lieu saint pour les Lévites, le lieu très saint pour le souverain sacrificateur une fois par an. Et puis, là, il nous est dit, mais en Christ, vous avez un libre accès. C'est-à-dire, en direct en présence du trône de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Sa miséricorde couvre les actes que nous n'aurions pas dû commettre quand nous les confessons. Bien entendu, quand nous les confessons. Hein. Faut pas oublier la confession de nos péchés devant Dieu. Alors à ce moment-là, sa miséricorde couvre ces actes que nous n'aurions pas dû commettre, et sa grâce nous rend capables de faire ce que nous devions accomplir alors que nous en sommes incapables. Voilà pourquoi il nous est demandé de nous approcher du trône de la grâce, de notre Sauveur bien-aimé. Amen.